France Inter, il est très précisément 13h. C'est donc l'heure de votre journal, Frédéric Barrère.
Bonjour à tous. Le lourd bilan des intempéries et des orages qui ont traversé 65 départements hier et cette nuit. Un mort et 15 blessés, dont deux graves. Les dégâts sont importants. Gérald Darmanin proposera la semaine prochaine au gouvernement de décréter l'état de catastrophe naturelle. Nous ferons le point sur ces intempéries dans un instant. La pagaille à la gare du Nord à Paris. Le trafic de tous les trains est interrompu au moins jusqu'en milieu d'après-midi en raison d'une rupture de caténaire. En sport, en tennis, plus qu'une finale, c'est un événement cet après-midi à Roland-Garros. Raphaël Nadal face à Casper Ruud pour un 14e titre porte d'Auteuil pour le champion espagnol. Et depuis ce matin, beaucoup de rumeurs. Nadal va-t-il dire stop ? Il tiendra une conférence de presse cet après-midi après la finale. Dans l'actualité à l'étranger, une nouvelle fusillade aux États-Unis. 3 morts et 11 blessés à Philadelphie. Plusieurs tireurs sont recherchés par la police. Et en Ukraine, Kiev à nouveau bombardé ce matin et Moscou menace. De nouvelles cibles seront bombardées si l'Occident continue à fournir des missiles longue portée à l'Ukraine. La météo, des nouveaux orages encore cet après-midi. Les prévisions de Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Il y aura donc à nouveau du tonnerre et des orages cet après-midi sur les régions au nord de la Loire. Et en ce moment, l'orage gronde dans les Alpes. Mais des orages d'une intensité et d'une violence moindres qu'hier et cette nuit. L'épisode orageux qui a traversé 65 départements a fait un mort, une femme de 30 ans et 15 blessés graves, dont un garçon de 13 ans qui se trouve dans un état critique. Les dégâts sont très importants, notamment dans les Landes et dans le Gers. Hier et cette nuit, 55 000 impacts d'éclairs et de foudre ont été recensés. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
15 000 foyers sont à l'heure actuelle toujours privés d'électricité. Et puis il y a ce drame à Rouen avec la mort d'une femme de 30 ans dans des circonstances terribles.
Oui, une femme qui a été emportée par une coulée de boue alors que certaines rues de Rouen ressemblaient alors à de véritables torrents. Elle s'est en fait retrouvée coincée sous une voiture où elle est morte noyée. Parmi les deux personnes grièvement blessées, il y a également ce garçon, 13 ans, dans un état critique. C'est apparemment un accident sur la voie publique qui l'a amené là. Ce qui frappe dans ces violents orages, c'est qu'ils se sont abattus sur une très grande partie du pays. Des ponts ont été emportés en Mayenne, des tuiles et des Vélux fracturés par la grêle dans l'Allier et à Vitrac dans le Puy-de-Dôme où vit Dominique, joint par France Bleu Pays d'Auvergne.
Ça a percé les volets roulants, ça a percé le toit, l'eau rentre dans la maison, ça a cassé les pare-brise de voiture. Mais bon, ça a été très très vite, quoi, des boules de billard en fait. C'est très impressionnant, ça tape fort, on a l'impression que la maison va s'écrouler, ça résonne dans toute la maison, vraiment ça fait peur.
Et à côté des habitations, ce sont les cultures aussi qui sont particulièrement touchées, des vignes déchiquetées dans le sud-ouest, des champs où certaines productions sont détruites à 100%, assure Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, principal syndicat agricole.
Quand il s'agit de blé, il n'y a plus d'épis, les grains sont tombés par terre. Quand il s'agit de maïs, les tiges sont coupées. Le maïs est la plante qui est certainement la plus résistante. Et une partie peut-être repartir à certains endroits, mais là où les grêlons étaient gros comme des balles de ping-pong, tout est brisé, cassé.
Christiane Lambert qui en appelle à la solidarité nationale après ces très violents orages. Le ministre de l'Intérieur promet de demander donc cet état de catastrophe naturelle dès la fin de semaine prochaine.
Des dégâts très importants, merci Faustine Calmel. Par exemple, à Rouen, au pôle médical du chemin de Claire à Bois-Guillaume, dans le nord de la ville, l'eau et la boue ont toutes défoncé sur leur passage. Charlie Naïm est kinésithérapeute au pôle médical. L'objectif maintenant, c'est d'essayer de sauver ce qui peut l'être.
On ne s'attendait pas à ça, c'est pas la première fois qu'on est inondé, mais d'habitude on avait 5-10 cm, on pouvait éponger en quelques heures et puis il n'y avait pas trop de dégâts. Et voilà, là on se retrouve avec 1 mètre d'eau et là on n'a plus rien à sauver. Avec le courant, ça a aussi arraché le placo. Il y a carrément une salle et deux murs qui sont explosés. Bah, là on va essayer déjà de vider tout, d'enlever effectivement la boue, le peu d'eau qui reste et puis de sauver ce qu'on peut sauver. Il y a peut-être quelques matériels, quelques meubles qu'on peut sauver et puis bah, on espère que les assurances vont nous aider. Ce qui m'a choqué, c'est que moi j'étais dans le centre-ville de Rouen, je me suis pris l'orage, j'étais à pied et je ne m'attendais pas à cette ampleur-là, chemin de Claire quand même. Là, on a du boulot.
Charline Haïm au micro de Manon Lamar-Brunel de France Bleu Normandie. Et puis Gare du Nord à Paris est sans lien avec les orages et les intempéries. La circulation de tous les trains est interrompue au départ et à l'arrivée de Paris Nord en raison d'un défaut d'alimentation électrique à la suite d'une rupture de caténaire. Trafic interrompu au moins jusqu'en milieu d'après-midi pour les TGV, TER, Eurostar et Thalys. Les RER et Transiliens sont également concernés. Une journée donc très compliquée dans les transports, comme l'explique ce voyageur Valentin, rencontré par Thibaut Delmarle, Gare du Nord, ce matin à Paris.
On revient d'un séjour d'une dizaine de jours à la Martinique. Donc on est revenu à Orly, on a pris le RER B, mais on a commencé à avoir les galères. Et après, le RER B est tombé en panne. Et en fait, on a pris du coup le métro, parce que le RER B était complètement à l'arrêt. Et en fait, en arrivant ici, on a vu tout ce monde ici à la gare. Et en fait, on s'est rendu compte que y avait une panne générale. Donc là, on a pris des frites, on est dans l'attente. On a essayé de voir un peu Blablacar ou les bus. Et bon, il n'y a rien qui correspond à là où on va, quoi.
Voilà Valentin, voyageur bloqué Gare du Nord à Paris. L'autre actualité forte ce dimanche en tennis, elle aura lieu cet après-midi à Roland-Garros, la finale homme entre Rafael Nadal et Casper Ruud. Et plus qu'un match, une finale, c'est vraiment un événement. En direct de Roland-Garros, on retrouve Fabrice Abgral. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors Rafael Nadal vise cet après-midi son 14e sacre à Roland-Garros. C'est vraiment une domination incroyable.
Oui, c'est vrai, c'est une domination incroyable dans une finale inédite hein, entre Rafael Nadal et Casper Ruud, tellement inédite d'ailleurs que c'est la première fois que les deux joueurs se retrouvent face à face en compétition, en match. Alors, sur le papier, cette finale paraît déséquilibrée. Hein. D'un côté, Casper Ruud, 8e mondial, première finale en Grand Chelem. Il peut devenir le premier Norvégien de l'histoire vainqueur d'un tournoi majeur. Et puis de l'autre, Rafael Nadal, un monument du tennis mondial. Lui, il vise un 22e titre record en Grand Chelem, un 14e porte d'Auteuil, vous l'avez dit, en autant de finales disputées. En d'autres termes, vous l'avez compris, depuis 2005 et depuis sa première victoire, eh bien, l'Espagnol n'a jamais perdu une finale à Roland-Garros. Alors Casper Ruud mesure l'immensité de la tâche qui se présente à lui, mais le Norvégien ne va pas se présenter en victime expiatoire. Casper Ruud n'est pas très connu du grand public, mais il est armé pour sinon battre, du moins inquiéter très sérieusement Rafael Nadal. D'abord parce que c'est un authentique spécialiste de la terre battue, vainqueur de 8 titres dans sa carrière, dont 7 sur cette surface. Ensuite, parce que comme il le dit, il n'a strictement rien à perdre. S'il gagne, c'est un exploit considérable. S'il perd, ce ne sera finalement que logique. Et pour cause, Nadal n'a perdu que 3 des 114 matchs qu'il a disputés porte d'Auteuil.
Voilà Nadal, un monument. Alors Fabrice, on va entendre maintenant Richard Gasquet, éliminé au deuxième tour du tournoi. Et il vous le dit, Fabrice, ce que fait Nadal est irréel. On écoute Richard Gasquet.
C'est lui qui en finale en Australie. C'est pareil, 6 mois d'arrêt, un Covid, c'est lui qui gagne le tournoi. Ici, 2 mois d'arrêt avec une côte, c'est lui qui est en finale, donc il est immortel. Parce que c'est incroyable, parce qu'il réalise à chaque fois son énorme préparation. C'est lui qui se retrouve là et c'est lui qui joue maintenant pour un 22e titre du Grand Chelem, ce qui paraît irréel. Quoi.
Voilà Richard Gasquet. Alors Fabrice, l'autre moment fort de l'après-midi à Roland-Garros, et quel que soit le résultat de la finale, c'est la conférence de presse de Rafael Nadal après le match. Alors beaucoup de rumeurs depuis ce matin. Est-ce que Nadal va dire stop, Fabrice ?
Alors écoutez, c'est même une rumeur qui circule depuis 3-4 jours hein, maintenant. Il se dit que Rafael Nadal pourrait alors au mieux mettre un terme à sa saison ou au pire prendre sa retraite à 36 ans. Il faut prendre ça avec évidemment beaucoup de précautions, mais on en est là aujourd'hui parce que c'est à cause de cette blessure au pied gauche qui le fait souffrir depuis 2005 et plus encore depuis 3 semaines. Quant à Rome, en 8e de finale, la douleur s'est réveillée de façon si violente et si intense que Nadal, en conférence de presse d'après match, a évoqué à cette époque l'idée que ça ne pouvait plus durer comme ça, qu'un jour sa tête dira stop parce que, dit-il, il ne prend plus aucun plaisir. C'est vrai que Rafael Nadal en a assez, il en a assez d'avoir cette épée de Damoclès systématiquement au-dessus de la tête. Il ne veut plus que sa vie soit gâchée par cette douleur, que ce soit sur le court ou en dehors du court. Alors va-t-il annoncer sa retraite ou une opération de la dernière chance ? Les deux sont possibles, mais aussi peut-être liés.
Fabrice Abgral, merci et début de la finale entre Nadal et Ruud cet après-midi, donc à 15h. La politique ce dimanche, à une semaine du premier tour des élections législatives, dans une campagne atone et plus encore qu'à la présidentielle, l'abstention attendue à un niveau record pour un premier tour législatif devrait jouer un rôle clé dans le scrutin. Les programmes ou tracts de chaque candidat de votre circonscription vont arriver dans vos boîtes aux lettres si ce n'est déjà fait. En tout cas, derrière ces enveloppes bien garnies, il y a des agents volontaires, des collectivités et des heures de travail pour que tous les électeurs reçoivent à temps la propagande électorale. pastorale, Shannon Marini de France Bleu Occitanie s'est rendue dans la salle des fêtes du marché Gare de Montauban dans le Tarn-et-Garonne.
Dans ce grand hangar, des centaines de cartons et 170 personnes, 5 environ par table. Et à celle de Sébastien, on n'hésite pas à donner de la voix.
Ça maintient le moral. Il fait très très chaud. Et des gestes répétitifs, ouais, donc c'est, on tient le coup, grâce à la musique, on tient plus le coup que s'il n'y en avait pas. Là, on fait les législatives, et puis après c'est fini, et après c'est le soulagement.
Le soulagement aussi à l'annonce au micro de la pause. Passer des heures debout sous une chaleur étouffante, ce n'est plus possible pour Virginie.
C'est juste fatigant la station d'être debout et piétiner toute la journée en fait. Ça fait 5-6 fois qu'on le fait. Je crois que ce sera la dernière.
Les agents sont rémunérés à l'enveloppe, environ 37 centimes. Le tarif est fixé en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de tracts à envoyer.
Et à une semaine donc du premier tour, la campagne se poursuit. À l'extrême droite, Reconquête espère bien faire sa première entrée à l'Assemblée nationale. Les candidats investis par le parti d'Éric Zemmour suivent le même cap que pendant la présidentielle. Défendre les Français contre les menaces qui pèsent sur eux, comme l'explique Stanislas Rigaud, porte-parole de Reconquête au micro de Lucie Dupressoir.
La première étant le grand emplacement, donc c'est l'aspect civilisationnel, sécuritaire, identitaire et sur le plan migratoire de notre projet. Et le deuxième, c'est la question du grand déclassement, du pouvoir d'achat, de la hausse des impôts qui a été imposée. Nous aimerions beaucoup avoir un groupe, ce serait une prouesse formidable. Mais après, nous sommes un parti naissant, nous avons 6 mois d'existence. La situation est pas évidente, due notamment au manque d'alliances, d'acteurs qui auraient pu être faits pour glaner le plus de place possible à l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas laisser comme seul opposant cette gauche radicale. Emmanuel Macron, c'est la France qui se détruit lentement. Et Mélenchon sera sa version accélérée. Donc, on peut pas laisser Emmanuel Macron comme seul adversaire politique. Et Jean-Luc Mélenchon et ses sbires, tous les électeurs doivent se mobiliser pour éviter cette confrontation factice entre les deux.
Stanislas Rigaud, Christophe Castaner, lui, président sortant du groupe LREM à l'Assemblée, était l'invité juste avant ce journal de questions politiques. La campagne a montré de nouveaux exemples inquiétants de violence envers les élus ou les personnalités politiques. Hier, Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, a été agressé et aspergé de chantilly sur un marché de Montargis alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans le Loiret. Et depuis plusieurs mois, les politiques font face à une hausse des violences contre eux, un nouveau mal démocratique. On écoute Christophe Castaner.
Je veux condamner toutes ces violences sous quelque forme qu'elles soient physiques, qu'elles soient verbales, et elles sont très nombreuses, et la folie des réseaux sociaux y contribuent très fortement. Et je le dis, quel que soit le candidat et le parti politique. On voit quand même ces derniers temps une violence qui monte et qui se banalise. Quand j'ai été élu président du groupe, par exemple, il y a un peu moins de 2 ans, il y a une présidente d'un autre groupe, de la France Insoumise, qui a fait un tweet « L'AREM recycle ses déchets » en parlant de moi. Vous voyez la violence verbale dans laquelle on peut rentrer. Et au fond, tout ça banalise et certains pensent, des enseignants, qu'il n'est pas illégitime de vouloir entartrer l'ancien ministre d'Éducation nationale. C'est insupportable, je le condamne fermement et nous devons collectivement le condamner et tout faire pour ramener le débat politique à ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on peut s'opposer, on peut se confronter, on peut ne pas être d'accord. Mais on n'appelle jamais à la violence et jamais au désordre.
Christophe Castaner avec Thomas Negaroff. Et certains électeurs français ont un temps d'avance sur l'Hexagone pour le premier tour des législatives. Les Français résidant à l'étranger, dont certains ont déjà pu voter en ligne, sont attendus aux urnes tout au long du week-end. Le vote a débuté pour le continent américain et les Caraïbes et aujourd'hui c'est pour le reste du monde. Le résultat des 11 circonscriptions des Français à l'étranger devrait être connu la nuit prochaine et une attention particulière sera portée sur la 5e circonscription Espagne, Portugal, Andorre et Monaco, où l'ancien Premier ministre Manuel Valls se présente sous les couleurs de la majorité présidentielle. L'actualité à l'étranger et une nouvelle fusillade hier soir aux États-Unis à Philadelphie. 3 personnes ont été tuées, 11 autres ont été blessées par des tirs dans une rue bondée de la ville. Une nouvelle tuerie alors que le pays est toujours traumatisé par le massacre dans une école d'Uvalde au Texas. Bonjour Eric Bigala.
Bonjour Frédéric.
Alors la police donne peu de précisions. Plusieurs tireurs visant la foule ont été aperçus.
Oui, c'est clair que c'est la foule qui a été prise pour cible par plusieurs tireurs. South Street, là où ça s'est déroulé, c'est l'artère bondée de Philadelphie. Samedi soir, les bars, les terrasses de café et autres restaurants se succèdent tout au long de la petite rue. L'axe est normalement sécurisé et les patrouilles de police sont renforcées le week-end. C'est d'ailleurs une telle patrouille de police qui est intervenue pour mettre en fuite les tireurs, raconte à l'antenne locale d'ABC l'inspecteur D.F. Pace de la police de Philadelphie.
Peu avant minuit, dit-il, des policiers en patrouille sur South Street ont entendu des coups de feu répétés aux alentours du bloc 200 sur South Street. Les agents étaient sur place et ont pu voir plusieurs tireurs qui faisaient feu, tirant dans la foule. L'un des officiers qui avait en vue l'un de ces tireurs a fait feu vers lui. On ne sait pas encore s'il a été touché ou non. 14 personnes ont été blessées par balles et ont été emmenées vers les hôpitaux. Trois d'entre elles, deux hommes et une femme, ont été prononcées décédées à leur arrivée. Les tireurs sont donc en fuite. L'un d'entre eux peut être blessé. La police a retrouvé sur les lieux, autour du bloc 200, deux armes de poing, dont au moins une équipée d'un chargeur de grande capacité.
Éric Biegala, merci. En Ukraine, plusieurs explosions ont secoué Kiev, la capitale, ce matin. Le maire Vitali Klitschko précise que les missiles russes ont frappé deux quartiers de la capitale. Kiev avait notamment été bombardé le 28 avril dernier, jour de la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Envoyé spéciaux à Kiev, Éric Audra et Boris Loumagne.
Dans la capitale ukrainienne, on pouvait se croire en sécurité ces dernières semaines, mais la Russie a rappelé cette nuit aux habitants de Kiev qu'aucune ville n'était à l'abri. 5 missiles de croisière, dont certains ont été filmés par les habitants, ont touché la rive gauche de Kiev, détruisant en partie un site de maintenance pour les trains et les chars d'assaut. Sur des photos, on peut constater les cratères très profonds creusés par les missiles. La défense aérienne ukrainienne, d'habitude si performante autour de la capitale, n'est parvenue qu'à intercepter un seul missile. Et puis dans la région de Mykolaïv, deux missiles ont eux été stoppés en cours de route. Enfin, cette scène filmée à Odessa dans la nuit, un homme chante, la mer Noire est dans son dos, quand derrière lui, depuis un bateau russe, un missile de croisière fend l'obscurité et entame sa course vers le territoire ukrainien.
Et de son côté, le président russe Vladimir Poutine menace. Moscou visera de nouvelles cibles si les missiles de longue portée sont fournis à l'Ukraine par les Occidentaux. Et puis concernant l'embargo sur le pétrole russe, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, indique que la France mène actuellement des discussions avec les Émirats Arabes Unis pour remplacer le pétrole russe. Inquiétude également en Asie. La Corée du Nord a tiré ce matin 8 missiles balistiques de courte portée au lendemain d'exercices militaires entre la Corée du Sud et les États-Unis. Kim Jong-un, le leader nord-coréen, continue de menacer les Occidentaux et ses voisins. Sur place à Séoul, Nicolas Roca.
Vu de Corée du Nord, l'invasion russe de l'Ukraine a ouvert une fenêtre d'opportunité. Car désormais, le pays est protégé des nouvelles sanctions de l'ONU contre son programme nucléaire et balistique par le veto russe comme chinois. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé le 26 mai dernier lorsque les États-Unis ont proposé une résolution en ce sens au Conseil de sécurité. Et puis cette nouvelle provocation ce dimanche est aussi une réponse directe aux exercices militaires conjoints entre Américains et Sud-Coréens. De jeudi à samedi, les deux alliés se sont entraînés au large du Japon avec, pour la première fois depuis 2017, un porte-avions américain, un acte de défiance pour Pyongyang. Ces essais peuvent aussi être une façon de montrer que la situation sanitaire est sous contrôle. Pourtant, avec 4 millions de cas de fièvre déclarés et des activités très limitées dans la majorité du pays, l'épidémie de Covid semble se poursuivre. Gavi, l'alliance du vaccin, estimait ce vendredi que la Corée du Nord avait reçu ses premières doses depuis la Chine. En 2 ans de pandémie, toutes les offres de livraison avaient été refusées. Désormais, reste à savoir si les doses entrées dans le pays seront réservées à l'élite ou si une campagne de vaccination massive aura lieu prochainement. Nicolas Roca, Séoul, France Inter.
Le jubilé de la reine Elisabeth, jour 4 des festivités, et le rideau va se refermer ce soir au Royaume-Uni sur les fêtes célébrant les 70 ans de règne d'Elisabeth II. Mais auparavant, le programme aujourd'hui, c'est un pique-nique géant. Plus de 10 millions de personnes devraient y participer et une immense parade dans les rues de Londres. On va refermer ce journal en prenant soin de la planète. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement, une journée de mobilisation pour protéger notre environnement. Et la ville de Montreuil en Seine-Saint-Denis n'a pas entendu cette journée pour partir à l'assaut de ces déchets. Place Colette Lepage, les habitants de ce nouveau quartier étaient invités à venir ramasser les déchets hier. Ils n'étaient pas nombreux, mais ceux qui étaient là étaient très motivés. Kathleen Comte.
Vas-y, pince, pince, tire et pince. C'est dur, attends.
Pas facile, effectivement, de ramasser des petits bouts de papier avec la pince à déchets, mais les enfants s'accrochent et parviennent à remplir leur grand sac poubelle.
On a trouvé un mouchoir,
des gobelets,
une bouteille d'eau
et un bout de pastèque.
Ça, c'est Sian, 8 ans et demi, qui l'a trouvée. Elle tenait à être présente aujourd'hui.
J'avais vu un papier qui disait que demain, on allait ramasser des choses. Du coup, moi, j'ai voulu participer.
Pierre-Luc, lui, est venu avec ses enfants pour les sensibiliser à la cause.
On passe sur ce trajet tous les jours, quoi. Donc on voit que ça s'accumule régulièrement, quoi.
Ça vous agace, on imagine ?
Bah ouais.
Et il n'est pas le seul. Cette journée à thème existe parce que de nombreux habitants se sont plaints. Nassera Definel, maire adjointe à la vie des quartiers de Montreuil.
Les citoyens sont venus en disant, bah voilà, vous voyez, il y a encore un tas de déchets ici, des déchets d'état sauvage. Là, les poubelles sont sorties, mais elles ne sont pas rentrées à telle heure. Là, on voudrait des aménagements. Et c'est comme ça qu'ensuite, on est parti sur l'idée de dire, travaillons sur un mode projet sur le long terme.
Et pour les habitants qui auraient manqué le ramassage d'hier, un peu de patience, une journée de collecte des déchets est organisée tous les mois dans ce quartier.
Reportage de Kathleen Comte. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Jean-Michel Golinski.
Nous sommes sortis du contexte d'orage violent. Néanmoins, dans la moitié nord et dans l'est, le ciel va rester incertain. Du nord de la Loire à la Belgique et du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes avec des averses et possiblement une activité orageuse très ponctuelle. Plus à l'ouest, du centre Val-de-Loire, en allant vers le Poitou-Charentes, le Limousin et le sud-ouest, le ciel va bien se dégager, notamment en seconde partie de journée. En fait, le plein soleil sera pour les régions méditerranéennes, exception faite de la Corse où le temps sera plus voilé. Les températures en baisse vont perdre jusqu'à 5 degrés par rapport à hier dans la moitié nord, 2 à 3 en général sur les régions méridionales. Baisse plus forte sur la Corse où il a fait 37 degrés hier après-midi à Ajaccio contre 30 prévus aujourd'hui.
Jean-Michel Golinski de Météo France.